Vous êtes sur RTL. Oui. RTL Midi,
le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce mardi 23 février, la mort d'une adolescente de 14 ans hier en Essonne. Elle a reçu un coup de couteau lors d'une altercation. Nous ferons le point sur les premiers éléments de l'enquête en début de journal. Puisqu'il n'y a pas de salon de l'agriculture cette année, Emmanuel Macron a décidé d'aller sur le terrain à la rencontre des professionnels. Il est en ce moment même dans une ferme tout près de Dijon. L'occasion pour nous de faire un état des lieux en pleine crise sanitaire avec notre invitée Véronique Marcheseau, la secrétaire générale de la Confédération Paysanne. Le cas des Alpes-Maritimes pourrait faire jurisprudence. Le confinement partiel pourrait bien être appliqué à Dunkerque. C'est ce que demande le maire de la ville, ville qui enregistre un nombre record de contaminations. Et puis, méga jackpot ce soir à l'Euromillion. Jamais une telle somme n'avait été mise en jeu. 210 millions d'euros sont à gagner. Encore faut-il jouer, évidemment. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Agnès.
Nous ne sommes même pas au mois de mars et c'est déjà une douceur printanière.
Et oui, on a 2 mois d'avance sur les températures. Je ne sais pas si vous imaginez, on devrait avoir une moyenne de 9 au nord, 12 au sud et on est largement au-dessus. 12 degrés prévus cet après-midi à Brest, 17 à Paris, Reims et Nancy, 18 à Limoges et Montélimar, 19 à Bordeaux et Besançon et ça ne s'arrête pas là, jusqu'à 21 degrés à Grenoble. Alors côté ciel, c'est une très belle journée, très ensoleillée à l'est comme à l'ouest, mis à part sur la pointe bretonne où là le ciel est bien gris avec du vent. Et puis entre les deux, entre les Hauts-de-France, le centre, le golfe du Lion, c'est plus variable et même chargé sur le Languedoc avec quelques gouttes.
Merci beaucoup Peggy et à tout à l'heure. La question du jour, faut-il autoriser les boulangeries à ouvrir 7 jours sur 7, vous dites oui à 76%, non à 19%. Cela fera partie des sujets que vous aborderez avec les auditeurs. Pascal Praud, bonjour.
Évidemment, bonjour Agnès. Ce drame, cette collégienne de 14 ans tuée d'un coup de couteau dans le ventre, vous allez en parler tout à l'heure et ça fera réagir évidemment les auditeurs. Après les communes du littoral des Alpes-Maritimes, qui sera confiné les week-ends? Faut-il élargir cette mesure? Là aussi, nous vous attendons au 32-10. On reviendra sur la polémique autour du menu unique sans viande. Et puis, on pourra évoquer, effectivement, ces 210 millions d'euros en jeu. Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous y croyez? Et question rituelle, que feriez-vous avec une telle somme d'argent? À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
La mort d'une adolescente de 14 ans. Les faits se sont déroulés hier en Essonne, à Saint-Chéron précisément. C'est lors d'une rixe entre bandes que la jeune fille a reçu un coup de couteau, Guillaume Chiez.
Oui, cela s'est passé vers 15h en pleine rue, non loin du collège du Pont-de-Bois où était scolarisée l'adolescente. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille aurait tenté de s'interposer dans une rixe entre bandes rivales. C'est à ce moment-là qu'elle aurait reçu un coup de couteau à l'abdomen. La collégienne a été rapidement hospitalisée en état d'urgence absolue. Elle est malheureusement décédée cette nuit. 6 mineurs ont été interpellés juste après les faits et sont toujours en garde à vue. Les enquêteurs doivent désormais déterminer qui d'entre eux a porté le coup fatal et s'il s'agissait d'un acte volontaire ou accidentel. Pour information, Saint-Chéron, c'est une petite ville paisible de 5000 habitants. On est bien loin des quartiers sensibles de l'Essonne. La rixe aurait opposé une bande de la ville et des collégiens venus de Dourdan, à 10 km de là.
Merci beaucoup pour ces premiers éléments. Guillaume Chiez du service police justice de RTL. Je vous propose d'écouter la réaction de Laetitia Romero-Diaz. Elle est députée La République En Marche de l'Essonne.
Il semble en effet qu'il y ait eu une bagarre entre jeunes. Alors, c'est pas monnaie courante, mais c'est un fléau. Toute la France est touchée aujourd'hui par ce phénomène. Il existe depuis longtemps, mais il tend à s'amplifier. Il tend à s'amplifier également en Essonne. Et ça ne concerne pas que les zones urbaines ou les quartiers. Ça concerne l'ensemble des territoires. Et la preuve, ici, on est sur un territoire rural. Ce que je sais, c'est que le préfet va réunir, là, dans les jours qui viennent, les maires concernés et l'éducation nationale pour établir un plan d'action renforcé sur cette problématique.
Laetitia Romero-Diaz, jointe par Julien Fautra il y a quelques instants. La gendarmerie du Val-d'Oise lance un appel à témoins depuis dimanche. Anne-Frédéric, 41 ans, n'a plus donné de nouvelles. 1m70, blonde, cheveux mi-longs, habitante de Taverny. Elle a disparu alors qu'elle faisait un jogging sur le chemin de Halage, sur les bords de l'Oise. Sa voiture, une Citroën Saxo, a été retrouvée à proximité. Depuis hier, vous le savez, la mairie de Lyon a mis en place un menu unique sans viande dans les cantines scolaires. Si Olivier Véran, le ministre de la Santé, a estimé qu'il n'était pas du tout choqué, c'est un tout autre son de cloche chez le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Il était l'invité de Benjamin Sportouche ce matin sur RTL. Alors peut-on parler de cacophonie au sein du gouvernement ?
Je vais vous rassurer, il n'y a pas de cacophonie au sein du gouvernement. Mais qui, parmi ceux qui nous écoutent en tant que parents d'élèves, peut comprendre qu'aujourd'hui, dans les cantines de la République, on arrête de servir de la viande tous les jours de la semaine.
Mais c'est temporaire.
Évidemment, moi je ne le comprends pas, mais comme beaucoup, beaucoup de parents d'élèves, et puis je vais vous dire, moi mon seul souci c'est l'alimentation de nos enfants. Je suis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. D'un point de vue nutritionnel, c'est aberrant d'arrêter de servir de la viande dans toutes les
Barbara
cantines
Pompili.
De la République.
Non, non, mais c'est pas
d'un
ce que dit Barbara
Pompili. Je vais y venir. D'un point de vue social, c'est une honte. Parce que c'est toujours une écologie de l'entre-soi, où à chaque fois ce sont ceux qui sont les plus fragiles, qui n'ont pas forcément accès à des repas équilibrés, qui sont pénalisés par de telles décisions.
Julien de Normandie, qui comme de très nombreux politiques cette année, devra se passer du salon de l'agriculture, annulé pour cause de Covid. Il est depuis ce matin avec Emmanuel Macron en Côte d'Or, au programme une table ronde pour débattre des problèmes du monde agricole. Mais avant cela, visite d'une ferme. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Ce n'est pas la porte de Versailles, certes, mais c'est tout comme.
Oui, cette ferme située à 15 km de Dijon n'a pas été choisie au hasard. Ici, cette exploitation s'étend sur près de 500 hectares. La famille Estalivet y cultive des céréales, mais pas seulement. On y trouve également 400 brebis, 300 porcs et une quarantaine de chevaux y sont en pension. Une ferme presque modèle avec des panneaux photovoltaïques sur les toits des bergeries. Alexandre, qui gère cette ferme avec sa sœur et son cousin, espère se faire le porte-parole d'une profession en souffrance.
On vit des années assez difficiles dans le milieu agricole en ce moment. Le changement climatique, on le prend de plein fouet. On est prêt à faire de l'environnement, il faut qu'on soit soutenu. On a des difficultés économiques par contre dans beaucoup de milieux. La viande, ça va très mal. Les céréales, beaucoup d'agriculteurs qui vendent à la moisson ont vendu à des prix qui sont encore pas suffisants pour se rémunérer correctement.
Au cœur de ces préoccupations, la loi alimentation, encore trop décevante à ses yeux, 3 ans après sa mise en place.
Il faut vraiment qu'il y ait une réelle contrainte. Et quand on donne des objectifs à toute la filière, il faut que toute la filière applique ces contraintes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas encore appliqué.
Que la valeur soit mieux répartie entre agriculteurs, industriels et enseignes de supermarchés, c'est aussi le message que compte passer le chef de l'État aujourd'hui, alors que les négociations commerciales annuelles se terminent à la fin de la semaine, même sans salon, à 15 mois de l'élection présidentielle. Hors de question pour Emmanuel Macron de ne pas venir au chevet de cet électorat toujours très courtisé.
Jacques Serret en Côte d'Or pour RTL et nous sommes en ligne avec Véronique Marcheseau. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes la secrétaire générale de la Confédération paysanne, éleveuse en vaches allaitantes dans le Morbihan. Comment va l'agriculture française en pleine crise de Covid ?
Alors, la crise du Covid n'a pas arrêté l'activité agricole. Tout le monde a besoin de manger, donc du coup, on n'a pas arrêté notre activité. Par contre, effectivement, depuis très longtemps, il y a des difficultés dans les campagnes, il y a des difficultés dans les fermes qui sont dues à une mauvaise rémunération des produits agricoles en général. Normalement, la loi Egalim, qui devait être issue des états généraux d'alimentation, devait venir pallier cette mauvaise répartition de la valeur le long de la filière.
Une loi votée il y a 2 ans, on le rappelle. Hein.
Voilà, une loi qui a été votée il y a 2 ans et qui n'a toujours pas atteint son objectif, c'est-à-dire que dans les fermes, on puisse vivre de notre travail.
Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que cette loi n'a servi à rien ?
Alors cette loi a servi à bien mettre en évidence la problématique. On était tous d'accord là-dessus, qu'en fait il y avait un problème de répartition de la valeur ajoutée entre la production, la transformation et la commercialisation. Donc du coup, là, on était vraiment tous d'accord. Il fallait y remédier, rétablir les rapports de force par un engagement politique fort. Et du coup, ça n'a pas été fait. Donc les constats, c'est bien, on est tous d'accord. Mais il faut passer à l'action pour inverser les tendances.
Est-ce que les sanctions, finalement, ne manquent pas à cette loi ?
Oui, c'est ça. Il fallait un système beaucoup plus coercitif pour qu'il soit efficace.
Alors, on parlait du Salon international de l'agriculture qui est annulé il y a quelques instants. Vous organisez, vous, en fin de semaine, l'initiative Le Salon à la ferme. Donc, plusieurs fermes vont être ouvertes partout en France. Qu'attendez-vous de cette opération ?
Alors, pour nous, il était indispensable de garder ce temps fort qui est normalement le temps du Salon de l'Agriculture, qui est un temps où on peut échanger à la fois avec le grand public et à la fois avec les décideurs sur l'agriculture, concerne tout le monde. C'est pour ça que à la Confédération Paysanne, on a décidé de faire le salon à la ferme. Mmh. C'est-à-dire que pendant la période que couvre habituellement le salon agricole, nous, on ouvre beaucoup de fermes sur tout le territoire. Il y a plus de 200 fermes qui sont ouvertes, donc à destination du grand public. Et parmi ces 200 fermes, on en a quelques-unes qu'on appelle les fermes politiques et sur lesquelles on va débattre de problématiques particulières et porter nos positions auprès des décideurs, donc dans le même objectif qu'on faisait le Salon de l'Agriculture.
Et peut-être discuter avec le grand public justement dans des phénomènes que l'on a vu émerger pendant cette crise sanitaire, ce sont les circuits courts.
Oui, les circuits courts ils sont à développer. Forcément, beaucoup de personnes ont pris conscience de l'importance de l'alimentation et de la nécessité de voir, d'avoir des rapports avec les personnes qui leur vendent leur alimentation. Donc, les circuits courts ont explosé pendant cette période-là, d'autant plus que beaucoup de personnes avaient plus de temps pour cuisiner. Et voilà, donc du coup, ce salon va permettre de rapprocher le grand public et les paysans et paysannes qui produisent leur alimentation.
Véronique Marcheseau, vous avez invité à la Confédération Paysanne le président de la République, le Premier ministre ou encore le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, à venir dans le Morbihan. Que voulez-vous leur montrer précisément ?
Eh bien, on veut leur montrer la réalité des fermes, parce que du coup, en fait, il y a une certaine déconnexion quand même entre les décideurs et nous, ce qui se passe sur nos fermes. C'est pas que des concepts, des mots. Nous, on est sur nos fermes. On a soit des difficultés, soit des choses à montrer sur nos fermes. Et donc, du coup, voilà, on voulait vraiment que les gens qui décident de l'orientation de l'agriculture, qui est du coup ce qui pèse sur notre vie quotidienne, voient vraiment comment nous, on vivait et quelles étaient les conséquences des décisions qu'ils prennent très éloignées du monde rural.
J'en profite pour avoir votre avis sur le menu unique sans viande dans les cantines scolaires de Lyon depuis hier. De nombreux éleveurs ont manifesté dans la ville. Qu'en pensez-vous ?
Alors, dans les cantines, il est évident que la priorité, ça doit être à la diversité de l'alimentation, à l'équilibre de l'alimentation, et que du coup, il faut garder de tout pour les enfants. Mais nous aussi, ce qu'on réclame, c'est que si les enfants doivent manger de la viande en quantité raisonnable, ils doivent aussi manger de la viande de qualité. Donc, on doit viser la diversité et la qualité de l'alimentation dans nos cantines, quoi.
Merci beaucoup d'avoir été notre invitée, Véronique Marcheseau. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la Confédération Paysanne. Nous faisons une pause et dans un instant, l'attente des habitants de Dunkerque, eux aussi, pourraient, ce n'est pas sûr, connaître un tour de vis local pour freiner l'épidémie.
RTL Midi.
RTL Midi.
Avec Agnès Bonfillon.
Un confinement partiel ou pas ? La ville de Dunkerque est en sursis. Le Premier ministre Jean Castex demande des mesures supplémentaires de freinage de l'épidémie. Il s'est entretenu ce matin avec le maire car la situation est préoccupante. Bonjour Samuel Duhamel.
Bonjour.
Le taux d'incidence, on le rappelle, est à 901 cas pour 100 000 habitants dans l'agglomération.
Oui, pour le maire de Dunkerque, l'incompréhension est totale. Il y a 10 jours, Patrice Vergrit alertait le gouvernement de la flambée de l'épidémie dans le Dunkerquois. Avec les élus du secteur, il souhaitait notamment fermer les écoles une semaine avant les vacances scolaires pour endiguer la vague de Covid. Fin de non-recevoir de la part de l'État. Aujourd'hui, l'élu regrette cette absence de décision alors que le taux d'incidence de l'épidémie à Dunkerque est désormais le plus élevé de France avec 901 cas pour 100 000 habitants.
C'est sûr que nous aurions préféré commencer ce travail de prévention beaucoup plus tôt, je l'ai déjà dit. Je l'ai dit au ministre également, maintenant, le passé, c'est le passé, on ne va pas rester là-dessus.
Les Dunkerquois rencontrés ce matin sont perplexes, d'autant que des mesures locales de confinement vont être mises en place dans les Alpes-Maritimes.
C'est pas normal. Non. Les mesures à Dunkerque, ils doivent être les mêmes qu'à Nice. Voilà.
Je pense que c'est inévitable qu'on fasse quelque chose, quoi. Bon, voilà, c'est trop important, quoi. Ils ont commencé par Nice. Bon, ils ont intérêt maintenant à venir à Dunkerque. Ils se rendent bien compte que c'est important, quoi.
Non, on comprend rien du tout. C'est pour ça qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer. C'est le préfet qui bouge pas, parce que le maire, il fait tout pour, mais le préfet ne bouge pas. Alors j'espère qu'il va mettre la gomme.
Après un échange ce matin avec le maire de Dunkerque, Jean Castex a annoncé que des mesures supplémentaires de freinage de l'épidémie allaient être mises en place dans la ville. Parmi les possibilités, un reconfinement local est envisagé.
Samuel Duhamel à Dunkerque pour RTL. Et alors que des concertations locales sont en cours, vous le disiez, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a déclaré qu'il se rendrait sur place demain. Acheter sa baguette 7 jours sur 7 dans un hypermarché, c'est possible. En revanche, ce n'est pas le cas dans les boulangeries. La loi impose un jour de repos hebdomadaire. Et certains professionnels aimeraient que ça change. C'est un vieux combat, mais pour l'heure, il n'en est pas question. Hier, la justice a d'ailleurs obligé un boulanger de Nanterre, en région parisienne, à respecter ce jour de fermeture, un jour par semaine. Romaric, c'est son prénom, était accusé de créer une concurrence déloyale avec les autres artisans du secteur. Il est dépité.
Je trouve ça injuste qu'on laisse la liberté aux gens qui ont envie de travailler, de travailler. Il y a une forme de concurrence déloyale entre le boulanger artisan qui est obligé de suivre cet arrêté et justement les Carrefour City, les Superettes et les stations-service qui ne seront pas contrôlés comme nous. Voilà. Alors pourquoi et encore plus dans ce genre de période.
Vous avez beaucoup perdu avec le Covid ?
On va dire entre 15 et 20%. Voilà. Quand on perd 15% de chiffre d'affaires dans une société, soit on décide de licencier, soit on va essayer de faire du chiffre différemment. Voilà.
Des propos recueillis par Julien Fautra pour RTL. La loi est donc très claire, Anaïs Bouissou. Certains commerces peuvent ouvrir 7 jours sur 7 et d'autres pas. C'est le cas pour les boulangeries.
Oui, la règle de base en France qui est fixée dans la plupart des départements, c'est que les boulangeries doivent fermer un jour par semaine, le dimanche, le lundi ou n'importe quel autre jour, mais il y a un repos hebdomadaire. Ce jour de fermeture est signé par arrêté du préfet, après accord entre les représentants du patronat et des syndicats. Et pour être très précis, c'est l'article 31-32-29 du Code du travail. Donc voilà, la règle, c'est ça. Maintenant, d'après la Fédération des entreprises de boulangerie, il existe une trentaine d'exceptions, une trentaine de départements où les boulangeries sont libres de rester ouvertes localement, où les préfets n'ont pas signé de restrictions, parmi lesquels l'Ardèche, le Finistère, la Moselle, le Var ou encore la Vendée. Il y a même eu, il y a quelques mois, au cours du premier confinement, une petite parenthèse, une dérogation partout en France, la possibilité d'ouvrir 7 jours sur 7 pour éviter la pénurie de pain. Mais cette autorisation n'a pas duré car d'après le gouvernement, elle n'a pas démontré son utilité.
Merci beaucoup Anaïs Bouissou pour ces précisions. Parmi les conséquences positives de la crise sanitaire, il y a les tarifs des assurances auto. Moins de déplacements, c'est moins d'accidents et donc moins d'argent versé par les compagnies. L'un des résultats dans votre porte-monnaie, c'est que le prix de votre cotisation est stable, 611 euros en moyenne, selon une étude assureland.com. Alors c'est une moyenne évidemment, Christophe Bourou, les différences peuvent parfois être énormes en fonction de l'âge du conducteur ou encore de la région.
Alors d'abord, cela dépend du type de contrat que vous avez choisi. Ainsi, plus de la moitié des automobilistes ont opté pour une prime tout risque. Et là, le tarif est légèrement au-dessus de la moyenne avec 643 euros. Ensuite, il y a l'âge. Les jeunes conducteurs bénéficient peu finalement du gel des cotisations, puisque jusqu'à 24 ans, ils paient toujours le prix fort, plus de 1000 euros, soit près de deux fois plus que la moyenne nationale. Autre critère qui pèse lourd dans notre budget, selon l'enquête, l'endroit où l'on fait assurer son véhicule, et c'est en PACA et Île-de-France où l'on paie le plus cher. La Palme revient toutefois à la Corse avec 732 euros par an, soit 224 euros d'écart avec la Bretagne, où l'addition est la moins salée. Enfin, plus la voiture est chère, plus les primes s'envolent. Comptez plus de 1000 euros pour une Tesla, alors que vous payez deux fois moins pour une Dacia.
Christophe Bourou pour RTL. Une pause et dans un instant, il est permis de rêver. On ne va pas s'en priver. Ce mardi, c'est une cagnotte historique qui est mise en jeu à l'euro-million. 210 millions d'euros.
RTL Midi.
RTL Midi.
Avec Agnès Bonfillon.
Alors et vous, qu'allez-vous faire avec 210 millions d'euros ? Nous sommes nombreux à rêver de la cagnotte historique mise en jeu ce soir à l'euro-million et faire des plans sur la comète, on est d'accord, ça ne coûte rien et surtout ça fait du bien. À Marseille, sur le Vieux-Port, derrière les étals de poissons, on ne s'en prive pas, Étienne Baudu.
Et on rêve même tout, ici, plaisir simple, car en fait, personne n'arrive à concevoir ce que peuvent représenter 210 millions d'euros.
Le tour du monde. À tout, avion, bateau, yacht.
Vous abandonnez la pêche?
Ouais, j'irai pêcher, mais dans les Caraïbes, j'irai pêcher la girelle royale. Et en plus, j'y crois tellement pas que je joue même pas, en plus.
Et c'est bien ça le problème. Mais sachant qu'il y a une cagnotte record ce soir, Véronique va vraiment y penser.
Si je joue pas, ça serait vraiment ballot, hein. Parce que s'il y a des sous à gagner, j'aimerais bien, hein. Et puis j'en fais profiter mes enfants et puis ma famille, en fait. Et puis je prendrai du bon temps avec mon mari.
Un nouveau bateau?
Pourquoi pas? Mais bon, bateau de plaisance alors. Pas de pêche.
Sébastien, lui, voit beaucoup plus grand. Et comme dans chaque ciré de pêcheurs marseillais bat le cœur d'un supporter.
Je rachète l'OM, ou une partie de l'OM, parce qu'il en veut cher, ma courte. Et je vire héros, tout simplement. Après, ça fait toujours rêver, mais une chance sur un milliard de gagner, alors bon.
Et une chance que ne va pas laisser passer Berthe, et c'est le bon cœur qui parle avant tout.
Ah ouais, j'arrête le port, j'essaye de me trouver une petite maison à la campagne, et après j'aide les amis, la famille, et surtout les associations, les animaux, et les enfants malades, alors ça c'est une priorité absolue.
Allez, et Berthe mériterait bien de gagner la cagnotte ce soir.
Ça fait plaisir en tout cas d'entendre tous ces rêves. Merci beaucoup Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et le coup de cœur du jour nous emmène en mer, le transport maritime en 2021, mais bien sûr que ça marche. La preuve, un cargo à voile vient d'achever sa première transatlantique. Grain de Sail, c'est son nom, est parti de Saint-Malo il y a 3 mois. Le temps en fait de se rendre en République dominicaine, puis de revenir à Nantes avec dans ses cales 33 tonnes de cacao. Un mode de transport plus écologique et pas si cher que ça, Mathieu Lopineau.
Ce bateau de 24 mètres de long et ses 4 marins avaient fait à l'aller une escale à New York pour décharger 15 000 bouteilles de vin bio. Loïc Briand est le capitaine à bord, c'est un ancien de la marine marchande.
C'est de permettre sur des produits dont on n'a pas vraiment envie de se passer, comme le café et le chocolat, d'avoir des alternatives. La possibilité pour tout le monde d'acheter une tablette de chocolat à moins de 3 euros qui soit bio et transportée à la voile.
Cette première traversée montre bel et bien qu'un transport maritime plus respectueux de l'environnement est possible.
On a dû consommer l'équivalent de 400 litres de gasoil, ce qui fait sur les navire que je commandais avant, même pas une heure de moteur. Quoi.
Et transporter plus lentement de la marchandise ne veut pas forcément dire que la tablette de chocolat sera beaucoup plus chère pour le consommateur.
Aujourd'hui, le surcoût, c'est 10 centimes par tablette. Et avec notre chaîne de valeur, on est capable d'absorber ce coût et de ne pas le répercuter.
Une autre transatlantique est d'ores et déjà prévue pour avril prochain. Et un second cargo à voile plus grand, celui-ci, est en projet, pouvant transporter jusqu'à 250 tonnes de marchandises.
Le reportage de Mathieu Lopineau pour RTL. On retrouve Pascal Pro avec qui vous allez dialoguer au 32-10 dans quelques instants. Alors vous avez écouté attentivement le journal, Pascal, qu'est-ce qui vous a frappé?
C'est vrai que cette collégienne de 14 ans, tuée d'un coup de couteau dans le ventre à l'occasion d'une rixe, nous fait tous réagir, évidemment. Est-ce que ces bandes rivales, parce que il y a eu un affrontement il y a quelques semaines avec des images qu'on avait vues d'une violence inouïe. Donc on se dit, est-ce que ces jeunes-là sont de plus en plus violents aujourd'hui? Et ce sera intéressant peut-être d'avoir des témoignages, ou de parents d'ailleurs, ou d'ados, qui nous racontent la réalité de ce qui se passe parfois sur le terrain. On pourra revenir évidemment sur le confinement des prochains week-ends. Et on a entendu là aussi, durant votre journal, à Dunkerque, beaucoup de Dunkerquois qui ne comprennent pas, qui disent qu'il faudrait peut-être se reconfiner, ou se confiner tout court. La polémique autour du menu unique sans viande, on en a parlé hier, on en reparlera aujourd'hui. Les boulangeries, c'est le sujet du jour. Je pensais qu'elles étaient ouvertes, moi, pour tout vous dire, 7 jours sur 7.
Elles n'ont pas le droit.
Mais elles n'ont pas le droit, manifestement. Et 210 millions d'euros, est-ce que vous jouez?
Ah ben, je vais y aller, moi, je vous le dis.
C'est vrai. C'est vrai, 210 millions. Alors, est-ce que, par exemple, demain, vous présentez le journal si vous avez gagné 210 millions?
Ah non.
Ah bon?
Ah, vous ne voyez pas. Vous voyez c'est la pas, pub, c'est au revoir, pas vrai. Président. Ben voilà.
Mais moi, je viens. J'aime bien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je viens, on travaille. C'est bien de travailler.
On a la chance. On vous regardera, parce qu'il n'y a pas de souci. La météo, Peggy Broch,
en tout cas, on pourra interroger les auditeurs.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Quelle belle journée encore, hein, soleil et douceur.
Oui, plein soleil, Agnès, à l'est, entre le Grand Est et la région PACA et la Corse. Très beau également à l'ouest, entre les côtes de la Manche, la façade atlantique et le sud-ouest. Et entre les deux, entre les Hauts-de-France, les Ardennes, l'île l'Île-de-France, le centre et le golfe du Lion. C'est un ciel plus variable entre nuages et éclaircies. En tout cas, c'est plus lumineux que ce matin. Et quelques bémols tout de même. La pointe bretonne, où le ciel restera gris, et le Languedoc avec encore des entrées maritimes, donc des nuages et quelques gouttes apportées par le vent marin et un vent d'autan qui est assez fort, 80 km/h en rafale, et ça souffle également sur les Pyrénées et les côtes de la Manche. Les températures, elles sont exceptionnellement douces. C'en est presque indécent, mais qu'est-ce que c'est bon, 12 degrés pour la température la plus basse à Brest, 16 à Nantes et Lille, 17 à Paris, Orléans et Strasbourg, ainsi qu'à Perpignan, 18 à Cognac, Auch et Bastia, 19 à Agen et Marseille, 20 degrés à Lyon et même 21 à Grenoble.
Et en plus, la super nouvelle, Peggy, c'est que demain, ça continue.
Exactement. Alors, après dissipation des grisailles et brouillards qu'on aura demain matin, notamment sur le nord-ouest, le sud-ouest et le nord-est, on va retrouver un beau soleil quasiment partout, un peu plus de nuages sur les côtes de la Manche, mais pas grand-chose, et également quelques entrées maritimes sur le Languedoc. Et sinon, les températures seront encore très douces, des maximales comprises entre 15 et 20 degrés au nord et jusqu'à 22 au sud.
Merci beaucoup, Peggy Broche. Dans un instant, dans 2 minutes précisément, il sera 13h sur RTL.
Il est 13h.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et évidemment, cette collégienne de 14 ans tuée hier d'un coup de couteau dans le ventre vous fait réagir. Bonjour Maxime.
Bonjour Pascal.
Qu'est-ce que ça vous inspire en deux mots ?
Alors moi déjà, j'ai juste une pensée pour la famille, ceux qui viennent juste de perdre un enfant de 14 ans.
Et on va continuer évidemment la discussion après le rappel des titres d'Agnès.
Et justement, donc, nous parlons de cette nouvelle rixe mortelle entre bandes de jeunes. Hier, c'est une adolescente de 14 ans qui a été tuée à coups de couteau. Cela s'est passé dans l'Essonne, à Saint-Chéron, précisément Saint-Chéron, où vous vous trouvez pour RTL, Vincent Serrano.
Oui, plus précisément, Agnès, devant le collège du Pont-de-Bois où était scolarisée la jeune fille. Elle se trouvait à proximité immédiate des grilles de l'établissement lorsqu'hier, aux alentours de 15h, elle s'interpose dans une rixe entre deux bandes rivales. L'une d'ici, de Saint-Chéron, l'autre de Dourdan, une commune à une dizaine de kilomètres d'ici. L'adolescente est donc à ce moment-là au centre et prend un coup de couteau à l'abdomen. Gravement blessée, elle est transportée à l'hôpital en état d'urgence absolue. Elle décédera des suites de ses blessures un peu plus tard dans la nuit. Alors, 6 mineurs ont pour l'instant été interpellés, placés en garde à vue. L'enquête devra donc, entre autres, répondre à 2 questions principales. Qui a porté le coup de couteau fatal et est-ce que ce coup de couteau était volontaire ou accidentel? Aux abords donc de ce collège d'habitude sans histoire, excentré dans cette petite commune de 5000 habitants.
Vincent Serrano en direct de Saint-Chéron dans l'Essonne pour RTL. Dunkerque va-t-elle être reconfinée de façon partielle, comme dans les Alpes-Maritimes? Le Premier ministre Jean Castex s'est entretenu avec le maire de la ville ce matin. Il demande des mesures de freinage supplémentaires dans cette agglomération qui enregistre des records. Le salon de l'agriculture n'aura pas lieu cette année, porte de Versailles, du coup, pour discuter avec les professionnels. Emmanuel Macron est en ce moment même dans une ferme de Côte d'Or avec le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
13h02.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h02 avec Maxime, qui est directeur commercial à Cergy.
Alors, et qui...